Good Morning Business, le grand entretien.
Notre invité dans le grand entretien aujourd'hui, c'est Stéphane Bancel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Moderna, je suis avec Margot Defrouville.
Bonjour.
Et qui est journaliste à BFM TV, qui gère toutes les questions de santé. On a plein de sujets pour vous. Il faut quand même qu'on se remémore d'où on vient, de la phase Covid, post-Covid, où Moderna était une star. C'est vous qui avez apporté l'ARN messager. On peut quasiment dire que vous avez sauvé quand même la planète. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez en tête, mais quand même le monde a changé grâce au vaccin ARN. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dit, rien que dans votre cours de bourse, vous étiez à plus de 400 dollars, aujourd'hui vous êtes autour des 50. Le monde a littéralement changé. Comment vous vivez ce côté star d'avant avec ce changement d'époque ?
Bonjour, merci de l'invitation. Alors effectivement, les choses ont changé, mais je dirais les choses sont revenues au plan initial. On a démarré Moderna il y a 15 ans avec cette vision de dire la technologie de l'ARN messager va permettre de faire des médicaments dans beaucoup de catégories, des médicaments qui ne sont pas faisables avec les technologies existantes. Donc on avait fait des vaccins en infectieux, on bossait sur le cancer, les maladies génétiques rares, et Covid est arrivé. Et donc on a littéralement misé la société sur Covid parce que c'était la bonne chose à faire au niveau santé publique mondiale. Ça a été un petit peu une distraction sur tout le reste. Même nos études cliniques sur le cancer ont pris pas mal de retard à ce moment-là. Et en fait, Moderna aujourd'hui est en train de revenir dans son cœur de métier, c'est-à-dire d'être la société la plus importante en ARN messager et de faire des médicaments dans tous ces domaines-là. Aujourd'hui, il faut voir que c'est une société qui n'a pas un produit approuvé, mais quatre. On doit avoir 5 vaccins approuvés d'ici Noël. On va avoir des données de phase 3 cette année sur le cancer du mélanome, le cancer de la peau. On a montré à l'ASCO, la grande messe d'oncologie il y a 15 jours, que sur 5 ans, on améliore de 50% le risque que les gens ne meurent pas ou que le cancer ne revienne pas par rapport aux meilleurs traitements existants sur le marché, les checkpoints Keytruda de MSD. Et sur les maladies rares, on va avoir une phase 3 cette année, donc rien qu'entre maintenant et la fin de l'année, la société va changer. Ce qui s'est passé au niveau business avec Moderna, c'était incroyable. On est passé de zéro de vente à 18 milliards en un an. Fortune a dit que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du business. Et après, on est passé de 18 milliards à 2 milliards parce qu'on savait qu'on allait redescendre de la montagne, parce qu'on savait qu'on allait, si les vaccins marchaient, et ils ont marché, on allait sortir de cette pandémie. Et vous savez, j'ai eu 3 doses de vaccin, mes 2 premiers et puis mon booster en 2021. Bon, j'ai une dose de vaccin maintenant. Certaines personnes ne sont plus vaccinées. Donc, on savait qu'on allait avoir une grande baisse des ventes et on avait un seul produit.
Ouais.
Ça arrive en pharma quand vous perdez des brevets, mais sur un produit d'un portefeuille. Et nous, on avait un seul produit. Alors, ce qui est bien, c'est comme on avait investi les revenus de Covid en R&D, on a joué un pipeline, donc 4 produits approuvés, plein de phase 3, 30 produits en R&D. Donc, l'histoire Moderna va vraiment commencer maintenant.
Alors, justement, ce qui intéresse Margot, notamment, c'est la grippe.
Notamment un vaccin combiné, grippe-Covid. C'est une première. Quand est-ce qu'il sera disponible dans nos pharmacies?
Donc, effectivement, c'est une première mondiale. Le produit a été approuvé il y a quelques semaines par l'Europe, avant les États-Unis, qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et il serait disponible en pharmacie dans un an. Parce qu'on est en ce moment en train de négocier avec le gouvernement les prix de remboursement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur quelle est la tranche d'âge, etc. Mais ce produit est très intéressant parce qu'au niveau Covid, c'est le produit de seconde génération qui est bien meilleur en termes d'efficacité que le vaccin qu'on avait en 2021 et qui a été updaté chaque année sur la souche circulante, et aussi avec moins d'effets secondaires. Et on a totalement réinventé la plateforme. Et au niveau grippe, non pas dans la technologie des œufs, ce qui est utilisé aujourd'hui en pharmacie, c'est des vaccins en fait faits dans des œufs. En fait, on aura la possibilité d'être totalement adapté à la souche circulante. Donc, ça améliorera l'efficacité du vaccin, ça réduira les hospitalisations.
Et vous pensez que ça peut avoir son public? Parce qu'aujourd'hui, on a très peu de Français. On a 17% de Français qui ont fait leur rappel Covid récemment. Donc, à qui ça va s'adresser?
Je pense sincèrement aux gens qui sont intéressés par une protection grippe et ou grippe avec Covid. Parce qu'en fait, vous avez encore une seule injection si vous allez avoir la grippe et vous aurez la protection en plus pour Covid qui sera là en même temps.
C'est intéressant, vous dites que ça a été autorisé en Europe avant les États-Unis. Les États-Unis ont changé aussi avec le retour de Donald Trump. Comment vous regardez ça? Vous avez l'impression que vous n'êtes plus aux États-Unis, dans une terre propice au développement scientifique, technologique, médical?
Alors, je ne dirais pas ça nécessairement. Je dirais que c'est plus compliqué. Nous, ce qu'on a fait depuis à peu près 18 mois, c'est qu'on s'est focalisé sur la science. On a continué à avancer le pipeline, on a travaillé avec les académiques, les centres hospitaliers, on a fait avancer les produits. On a eu 3 produits approuvés par la FDA l'année dernière, ce qui est quand même pas mal dans le climat actuel.
Donc, et vous avez eu des revers aussi avec la FDA?
On a eu des revers qu'on a su retourner assez rapidement, parce qu'ils n'étaient pas fondés sur la science, et donc on s'est armé de scientifiques.
Mais c'est-à-dire que vous avez l'impression que la FDA vous a dit non pour des raisons politiques? C'est-à-dire que c'est Robert Kennedy qui n'aime plus les vaccins, je peux résumer ça comme ça
ou... Alors, je ne sais pas qui a dit non, parce que je ne sais pas ce qui se fait dans le système, tant que je ne suis pas dans le gouvernement. Mais effectivement, la FDA a dit non. pour aucune raison scientifique. Donc on s'est battu.
Pas une question d'efficacité, quoi.
Correct. Oui. On s'est battu sur le dossier. Les données ont été publiées dans le journal le plus prestigieux médical, le New England Journal of Medicine. Et depuis, la revue a été réinstaurée.
Mais est-ce que vous regardez différemment l'Europe, du coup, aujourd'hui? Parce qu'on critique beaucoup l'Europe qui ne va pas assez vite, qui a un prix des médicaments, notamment en France, qui est trop bas. Est-ce que quand vous voyez que le terrain n'est plus le même, vous regardez différemment notre
continent? Alors, on regarde l'Europe comme une manière de se diversifier, puis c'est un marché très important. Il y a plus de personnes âgées en Europe qu'aux États-Unis. C'est un continent plus grand et c'est un continent un petit peu plus vieux. Et aussi, il y a un énorme terroir scientifique médical en Europe qui est excellent. Donc c'est des marchés importants pour nous. Je pense que le plus gros problème de l'Europe, c'est ce que vous venez d'écrire. Les prix des médicaments sont trop bas, et donc ça pose un problème. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de médicaments qui seront approuvés en Europe, qui ne seront pas disponibles en France. Il faut voir qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près 6 médicaments sur 10 qui ont été approuvés en Europe depuis 2020, qui ne sont pas disponibles pour les patients français. Alors que c'est à 90% en Allemagne, c'est même à plus de 70% en Italie.
À cause du prix.
À cause du prix. Donc les laboratoires décident de ne pas lancer les produits, c'est un peu le cas pour Moderna, on a lancé tous nos produits approuvés. Mais je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier. L'autre phénomène, je pense, où l'Europe est en danger, j'étais à Bruxelles la semaine dernière pour en parler, c'est la Chine. Il faut voir que l'année dernière, en 2025, on a une molécule sur trois prise en licence par les gros laboratoires européens ou américains qui vient de Chine. Ce pourcentage ne fait qu'augmenter chaque année. Aujourd'hui, vous faites une étude clinique en Chine, ça prend la moitié du temps et la moitié du coût que l'Europe ou les États-Unis.
Donc ce sont vos principaux concurrents aujourd'hui?
La Chine, ça devient en fait un concurrent le plus important. Si vous regardez aujourd'hui, même au niveau sécurité nationale, avec BioNTech qui vient d'annoncer la fermeture de ses usines en Allemagne, il n'y aura plus d'ARN messager sur le continent. Il y a 5 sociétés en Chine. On a une usine aux États-Unis, il y en a une au Canada, on en a une en Australie, on en a une en Angleterre. C'est quand même inquiétant. Demain, il pourrait y avoir un nouveau virus. Demain, il pourrait y avoir un acte de terrorisme. Aujourd'hui, il faut voir que, vu les technologies qui existent, vous pouvez fabriquer un nouveau virus pour quelques centaines de milliers d'euros.
Le bioterrorisme, ça vous fait peur? Je vous ai entendu en parler. Ça fait partie des menaces qui pèsent sur l'Europe, notamment.
Mais exactement. Regardez ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui en Europe. Les drones ici, les avions par là. De développer un virus aujourd'hui, de le transmettre dans des restaurants, dans des cinémas, sans que même vous sachiez qui a démarré ce processus-là. Vous pouvez même développer un virus dans un laboratoire, et développer un vaccin pour protéger votre population avant de le propager. Donc, on est dans un monde qui est très différent. Il y a un jeune qui n'est pas biologiste, qui a mis sur la toile il y a une semaine ou deux, qui s'est séquencé lui-même dans sa cuisine en utilisant Claude pour les 100 étapes qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas de formation de biologiste pour se séquencer. Alors, ce n'est pas grave, se séquencer, c'est lire son propre ADN. Mmh. Mais à partir de sa salive, il a acheté sur eBay une petite machine pour se séquencer, et il a fait tout seul sans formation. Donc on vit dans un monde un peu différent.
Dans le monde un peu différent, il y a aussi le conflit au Moyen-Orient. Est-ce que ça a eu un impact sur vous, votre activité?
Alors, pas directement. On n'a pas d'essais cliniques dans le Moyen-Orient, à part en Arabie Saoudite, sur des maladies génétiques rares qui sont très présentes dans ce pays-là. Donc on a eu peu d'impact via la guerre au Moyen-Orient.
Vous parliez des choses qui avaient été mises en stand-by pendant le Covid.
Ouais.
Quelle est la prochaine grande révolution dans la lutte contre le cancer?
Alors, c'est des produits individualisés. C'est-à-dire que si vous et moi sont diagnostiqués aujourd'hui dans le même hôpital par le même médecin qu'on a un cancer de la peau, Moderna fera une molécule pour vous et fera une molécule différente pour moi en 30 jours. Cette molécule sera injectée dans notre bras, comme un vaccin normal. En fait, cette molécule, elle sera adaptée aux mutations génétiques de votre cancer pour en fait éduquer votre système immunitaire à aller manger votre cancer. Donc ça, c'est assez incroyable. On a monté des données de survie à 5 ans qui sont incroyables par rapport aux meilleurs produits disponibles sur le marché aujourd'hui. Et on est en train de faire ça dans le cancer des poumons, pancréas, reins. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, ayant travaillé avant chez bioMérieux en diagnostic, c'est que je pense qu'il y a une convergence extraordinaire qui est en train de se passer au niveau santé, de meilleurs outils de diagnostic et de meilleurs outils thérapeutiques. Et je pense que dans le futur en cancer, sur le poumon, on est en train de démarrer une phase 3 sur des gens qui ont un cancer de stade 1, donc précoce. Et l'idée est simple, c'est vous pouvez faire un rayon X tout simple des poumons et voir des cancers, surtout ces anciens fumeurs, très tôt. Et on vous donnerait le produit Moderna seul. Donc avec des effets secondaires d'un vaccin, c'est-à-dire peut-être vous allez avoir un petit peu de température pour un jour ou des frissons cette nuit-là, mais ça va aller en fait éduquer votre système immunitaire à aller attaquer votre cancer.
Tout ça, c'est en partie grâce à l'intelligence artificielle, à la capacité de calcul qui fait émerger des nouveaux traitements. Il n'y a pas que le bioterrorisme, ça donne aussi beaucoup d'espoir. Comment vous regardez aujourd'hui, à la sortie de VivaTech, l'ensemble des capitaux qui, justement, après avoir été drainés vers la santé, se drainent vers l'intelligence artificielle? Alors, vous en profitez peut-être par un détour, mais comment vous regardez ça?
Alors, c'est clair que pour l'industrie, si je parle à mes collègues à Boston qui, eux, ont besoin de lever des capitaux, c'est beaucoup plus dur qu'il y a quelques années.
Ouais.
Par contre, pour des sociétés qui sont bien capitalisées comme Moderna, l'IA est un atout énorme. Je pense qu'il y a deux vecteurs importants en santé. Un, c'est l'invention de nouveaux médicaments, parce que la biologie du corps humain est tellement complexe que vous pouvez en fait compléter et aider un scientifique avec plein d'expertise qu'il ou elle n'a pas. Donc je pense nouveaux médicaments. Et l'autre aspect, c'est l'accélération des développements cliniques. Parce qu'en fait, développer un médicament entre les études précliniques et l'approbation, il y a des centaines et des centaines de processus business. Ou si vous êtes capable, avec des big data, de tout intégrer et d'avoir des agents, etc., vous pouvez réduire le temps. Donc, je pense qu'à terme, l'industrie, je pense à l'horizon 5 ans, l'industrie serait capable de réduire de plusieurs années le temps de développement. Donc,
grâce à l'administratif, en fait, c'est même pas de la santé. Ça, c'est
exactement. Exactement, c'est gérer le business.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous faites un appel quand même aux financiers, aux fonds d'investissement, à la bourse, en disant quand même, on a besoin de fonds?
Ben, la santé a besoin de fonds. Comme vous savez, la santé, c'est des cycles de 10 ans de développement de produits. C'est très risqué, 90% des molécules qui démarrent en clinique ne sont jamais approuvées. Ouais. Donc il faut des capitaux, il faut des capitaux du gouvernement, il faut des capitaux des marchés, privés ou publics. C'est très important.
Merci beaucoup Stéphane Mancel d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Merci beaucoup Margot. Merci de m'avoir accompagné ce matin.